Eh bien, nous avons fait ainsi le lit d'une violence insondable, parce que nous n'avons pas voulu la sonder. Or, c'est parce que le harcèlement est plus insaisissable que les violences manifestes qu'il est sans doute plus dangereux. C'est parce qu'il avance masqué que nous devons en dévoiler toute la dimension. Et c'est un devoir.
Nous sommes le 3 mai 2011. Luc Chatel, ministre de l'Éducation, prend la parole aux Assises nationales sur le harcèlement à l'école. Cet événement peut paraître anecdotique. Pourtant, il sera à l'origine du premier plan national de lutte contre le harcèlement scolaire en France. Des récentes recherches universitaires permettent à l'époque de mettre en évidence, et surtout en valeur, des choses qui n'avaient pas de nom à l'époque. Le harcèlement scolaire, ou autrement dit, le harcèlement en milieu scolaire. Un long chemin pour nommer ce phénomène en France, le prendre en compte et même le prendre au sérieux. Alors, nommer le harcèlement a-t-il pour autant permis de faire bouger les choses? Est-ce que cela a permis et permet encore de mieux comprendre et combattre ces phénomènes? Et que nous disent les discours politiques, médiatiques sur le harcèlement?
Vous écoutez Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Nommer les mots, un épisode signé Thierry Weber.
À l'école et dans la rue, on me traite de sale tête et de caméléon et je trouve que c'est injuste.
Mai 1989. Sarah a 12 ans. Dans son collège de Strasbourg, elle est la cible d'insultes répétées depuis plusieurs mois. Les mots sont durs et ses moqueries l'affectent. Elle se confie à sa mère qui lui soumet alors une proposition. À l'époque, l'émission « C'est pas juste » diffusée sur France 3 donne la parole aux enfants qui peuvent dénoncer quelque chose qu'ils vivent. Une injustice, un mal-être, une question qu'ils se posent. La mère de Sarah encourage donc sa fille à se rendre sur ce plateau. L'émission commence par un reportage sur ce que vit Sarah, qu'elle explique par ces mots.
On pourrait être, je sais pas, jaune, violet, de toutes les couleurs. On peut peut-être avoir une tête de gorée ou des trucs comme ça, mais on est toujours un humain. Alors ça m'énerve parce que je suis quelqu'un comme tous les autres.
Ensuite, on se retrouve sur le plateau de l'émission, un peu en mode conseil de classe. L'animateur, Vincent Perrault, est entouré d'une psychothérapeute et d'une professeure de lettres au collège. Autour de Sarah, sa mère Josette et son amie Yacina, témoin des moqueries et insultes. À l'époque, le mot « harcèlement » n'existe pas. Stéphane et Jean-Paul sont aussi là. Ils font partie des élèves qui insultent Sarah. Dans les premières minutes, Sarah se confie et ce qu'elle vit est pris au sérieux, notamment par la psychothérapeute.
C'est vrai que ça pose la question, vous le disiez aussi, du grave ou du pas grave pour un enfant. Hein. Et le « c'est pas grave » dont il a été question dans le petit reportage, on mesure pas bien, c'est vrai, l'importance que ça peut avoir, certains mots, ces mots qui tuent, ces mots qui font mal. Et en fait, on a l'impression que là, il y a une succession d'événements, de mots, hein, la caméléon qui se rajoute à la sale tête. Caméléon tout seul, effectivement, c'est drôle, hein, mais caméléon après la sale tête, après...
Et puis tout dépend avec quel ton.
Avec le ton, alors, c'est ce que je voulais dire aussi, oui.
On tente de voir ensuite ce qui peut expliquer ces moqueries, qui pour la jeune préadolescente ne concernent pas forcément son physique.
Ça doit être quelque chose de peut-être jalousie, parce que mon père est dans l'école, il est délégué de classe, et enfin délégué parental, et je pense que c'est la jalousie qui les amène à faire ça.
La parole est ensuite donnée à Jean-Paul. Le présentateur l'interroge notamment sur ce qui l'entraîne à continuer à l'insulter, pour essayer de voir quels sont les mécanismes qui poussent certains élèves à s'en prendre à d'autres.
Quand on l'embête, là, elle fait tout un cirque. Alors c'est pour ça que je crois aussi que pour les autres garçons, alors ça les amuse. Alors ça, ils continuent à la maltraiter comme ça. Alors c'est pour ça.
Parce qu'elle fait tout un cirque.
Ouais, elle fait tout un cirque, elle crie, elle, je sais pas, on dirait qu'elle danse, elle court autour, elle tape dessus.
Sans le savoir, Jean-Paul pose ici les bases d'un des aspects de ce qui sera appelé plus tard le harcèlement, la répétition des faits, souvent en groupe, galvanisés par la réaction de la victime. On arrive tout doucement à la fin de l'émission et Vincent Perrault décide de rebondir sur les propos de Jean-Paul et interpelle Sarah.
Est-ce que tu crois que même en te dominant le plus possible, tu aurais du mal à essayer de faire abstraction de tout ça et quand on t'ennuie comme ça, de faire comme si de rien n'était? Je crois que t'as pas vraiment essayé de réagir comme ça.
Ben, si j'essayerais, je veux bien essayer, mais c'est à eux aussi de se dominer parce que dans la rue, ils me voient, ils n'ont pas à me traiter comme ça, vraiment.
Ce genre de scène est courant dans les années 90. Les discours médiatiques, politiques, mais aussi sociétaux, prennent à la légère ces situations. C'est ce qu'avouera, quelques années plus tard, Luc Chatel, ministre de l'Éducation, dans les années 2010.
Disons-le franchement, jusqu'alors, on ne tenait la plupart du temps pas compte des faits de harcèlement à l'école. On les estimait sans doute trop insignifiants au regard des violences plus évidentes et plus marquées, les réduisant au statut de gaminerie, perçues du reste comme nécessaires parfois à la construction de l'enfant. On les jugeait trop insaisissables pour être appréhendés scientifiquement, trop divers pour se voir apporter une réponse globale. On les considérait comme relevant de la nature enfantine, adolescente. Il faut que jeunesse se fasse, entend-on régulièrement.
Pourtant, les recherches sur le sujet remontent aux années 1970, principalement en Europe du Nord, où des chercheurs et psychologues suédois et norvégiens s'intéressent aux conséquences psycho-affectives pour les victimes et au devenir psychologique et social des agresseurs. Mais en France, jusqu'aux années 90, on a bien du mal à nommer précisément les cas de violence en classe.
Le terme harcèlement est arrivé assez tard en réalité en France.
Éric Debarbieu est un pédagogue français, professeur de sciences de l'éducation et connu notamment pour ses publications sur les violences à l'école.
On avait un terme qui était le terme anglo-saxon, le school bullying, hein, qui n'est pas exactement le harcèlement. Hein, c'est Jacques Pain, donc un de ceux qui a travaillé en premier sur la question, parlait de malmenance. Vous voyez, nous on dira de maltraitance répétée. En France, on a eu du mal. C'est-à-dire que tout était d'abord considéré sous le prisme de la violence, et de la violence la plus lourde, c'est surtout de la violence qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire que ça empêchait de se mettre en question en tant qu'institution scolaire, qui était, ben, c'est l'école agressée, l'école qui suffirait de replier sur elle-même avec des flics à la porte pour que tout se passe bien, ce qui est une erreur fondamentale.
Une conférence mondiale à l'UNESCO en 2001 sur les violences à l'école suscite l'intérêt d'associations et de syndicats qui vont peu à peu s'emparer du sujet. Le terme « harcèlement » arrive alors tout doucement et permet de mieux appréhender les cas de violence. En 2008, les travaux de la pédopsychiatre Nicole Catlin permettent d'aller plus loin et ne plus seulement appréhender le harcèlement comme une opposition entre agressé et agresseur, mais s'intéresse au groupe classe, à sa dynamique et à ce que le groupe produit comme effet pervers. Mais c'est dans les années 2010 qu'un tournant s'opère. Les premières assises nationales sur le harcèlement scolaire en France sont organisées par le ministre de l'Éducation de l'époque, Luc Chatel. Une enquête de l'UNICEF en 2011 permet de quantifier le phénomène. 11 à 12% des élèves français subissent une forme de harcèlement scolaire au cours de leur scolarité. Un chiffre qui reste le même dans les plus récentes enquêtes. En 2013, pour la première fois, la lutte contre toutes les formes de harcèlement est inscrite dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Le harcèlement n'est plus seulement un terme scientifique, de niche, mais il est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes. De plus en plus, les médias parlent de cas de suicide d'enfants et d'adolescents harcelés, des noms, des visages qui font la une des JT, des quotidiens, dans lesquels on peut lire la souffrance des parents et l'impuissance du corps enseignant. on semble, dans la majorité des cas, bien loin de la légèreté des plateaux télé des années 90. À cette même époque, le harcèlement scolaire, tout juste rentré dans le langage, est accompagné du cyberharcèlement avec l'essor d'Internet qui vient amplifier le phénomène. Ce n'est plus seulement à l'école, c'est tout le temps, 24 heures sur 24. En 10 ans, les plans anti-harcèlement et les actions de communication se succèdent. Des guides à l'intention des équipes éducatives, de grandes campagnes de sensibilisation, la création du numéro d'urgence 3020 en 2011. La lutte contre le harcèlement est désormais bien ancrée dans les discours politiques et médiatiques.
Et le sujet est devenu aussi quelque part un marronnier.
Éric Debarbieux.
Un marronnier politique, un marronnier médiatique sur lequel on va réagir à chaque fois qu'il y a un drame. Et ce que je reproche beaucoup aux politiques, y compris aux politiques actuelles, il n'y a pas de suivi, si vous voulez, médiatique. Hop, on met une mesure en place où, évidemment, je l'avais parié, ça sera les bonnes âmes, style Brigitte Macron, qui vont s'en emparer, tant mieux. Mais en même temps, on se rend compte à quel point il y a quelque part de l'insincérité parfois, ou en tout cas un manque de suivi. Cette manière dont, encore une fois, c'est un marronnier médiatico-politique, est pour moi catastrophique pour les victimes. Le harcèlement est devenu aussi un marché au programme. C'est moi qui ai le meilleur programme, en gros, payez-moi et il n'y aura plus de harcèlement. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, il faut être très très clair, alors que les scientifiques réels qui travaillent sur la question sont des gens qui savent que n'importe quel programme, c'est au mieux, pour le meilleur programme, 17% de cas en moins. C'est bien, mais il en reste 83%.
Le terme harcèlement aurait permis de mettre à la fois un seul et même mot sur des situations diverses, de centraliser des politiques publiques, d'en parler, mais aussi de le banaliser. Mais alors, comment appréhender et surtout comment combattre le harcèlement scolaire aujourd'hui en 2024, soit seulement un peu plus de 10 ans après son inscription dans la loi française ? Est-ce qu'il faut se contenter d'imposer un seul et même uniforme pour tous ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas carrément renverser la table et réformer en profondeur le système scolaire ?
Une équipe qui n'est pas stable est une équipe qui ne peut pas lutter contre la violence. C'est un vrai problème en France. Donc stabilité signifie attractivité du métier. Donc on voyait qu'on est dans un système extrêmement compliqué. Ça signifie aussi, bien entendu, attractivité salariale, entre autres, qui est un sujet qui est de plus en plus porté. Ça signifie aussi attractivité du métier par une meilleure formation, bien entendu. Mais aussi, donc ça dépend de la qualité des équipes, la qualité des équipes, elle dépend aussi de la manière dont les adultes eux-mêmes règlent leurs conflits. Or, on est dans une augmentation des conflits d'équipes incroyable. Imaginez que plus de 60% des professeurs, par exemple, disent qu'ils ne s'entendent pas avec leur chef d'établissement. Que plus de 75% des personnels, premier ou second degré, disent qu'ils se sentent méprisés par la haute hiérarchie, qu'ils ne se sentent pas soutenus. On sait que plus un élève se sentira injustement traité, plus il aura des épisodes de violence, y compris de harcèlement de l'autre. Je me construis contre. Ah, je suis puni, vous allez voir, je vais être vraiment l'emmerdeur. Et ça, c'est vachement vrai pour les mecs, pour les garçons. Il y a beaucoup de sexisme aussi derrière tout ça, vous voyez. Plus on punit, plus on construit les garçons, plus on construit du sexisme, plus on construit de la violence et du harcèlement. Bon. Donc, le drame quand même, c'est qu'aucun enseignant, je dis bien aucun, n'est formé, par exemple, à la discipline courante, à la gestion de classe, n'est formé à la question du qu'est-ce que ça fait une punition, qu'est-ce que c'est qu'une punition juste, est-ce qu'il faut punir, comment punir, est-ce que l'autorité est une question personnelle ou une question collective ? C'est une question collective. Un enseignant, ou alors on veut quoi, Bruce Lee dans toutes les classes ? Ou Gandhi ? Tous les enseignants ne seront ni Bruce Lee, ni Gandhi. Il faut être très clair là-dessus.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Thierry Weber en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Asselot. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.